Villiers de l'Isle-Adam, nouveau conte cruel, Sœur Natalia. Oh, quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Vieux cantique à Notre-Dame. Autrefois, en Andalousie, à l'angle d'une route montueuse, s'élevait un monastère de franciscaines du tiers-ordre. Ce cloître, bien qu'en vue d'autres couvents qui se veillaient les uns les autres, était surtout protégé par la vénération qu'imposait alors l'aspect de toute grande croix sur un portail d'où tintait une cloche deux fois le jour. Une longue chapelle, dont l'huis jamais fermé s'ouvrait sur trois marches et le grand chemin, longeait d'un côté le grand mur de ce monastère. Aux alentours, les riches plaines, les arbres à parfum, l'herbe des fossés, l'isolement et la route poudreuse. Par un énervant crépuscule d'automne, se trouvait agenouillée, en ses habits de novice au fond de cette chapelle, une jeune fille aux traits d'une beauté suave et touchante. C'était devant une niche creusée en un pilier. Du cintre pendait une solitaire lampe d'or, éclairant une madone aux yeux baissés, aux mains ouvertes, ruisselante de grâce radieuse, une mère céleste, en l'attitude de Lecce Antilla. Sur la route, l'on entendait monter, à travers les vitraux opposés, les accents frais et sonores d'un chanteur de sérénade, que les accords d'une mandoline, qu'Anne accompagnait. Les langoureuses paroles brûlantes de passion, d'audace, de jeunesse parvenaient dans l'église jusqu'à Sœur Natalia, la novice agenouillée, qui, le front sur ses bras croisés aux pieds de la Madone, murmurait d'une voix désolée « Madame, vous le voyez, je pleure, et vous supplie de me point bannir de toute compassion. » Car c'est défaillante et dans l'angoisse, et votre sainte image au fond de toutes les pensées, que je vais m'exiler d'ici, ô chaste reine. Prendrez-vous en pitié celle qui déserte pour un amour mortel le seuil du salut? Cette voix, vous l'entendez, elle m'implore en sa fervente fidélité. Si je ne viens pas, il va mourir. Ces transports si longtemps subis sans espérance et sans plainte, comment les condamner? Et persister à ne pas consoler celui qui aime tant? Vous qui savez si je vous aime, ô madame, et que tous les soirs ma joie était de venir vous prier ici, pardonnez-moi. Voici mon voile. Voici la clé de ma cellule. Je les remets à vos pieds. Mais je ne peux plus. J'étouffe. Cette voix, elle m'attire. Adieu. Adieu. Debout, chancelante, n'osant lever les yeux, Sœur Natalia pose à la clé sainte et le voile aux pieds de la bleue madame, au doux visage de lumière, aux yeux baissés aussi, mais vers quels cieux et quelles étoiles. Puis, s'appuyant au pilier, elle gagna le portail, et après un instant l'entr'ouvrit, elle descendit le degré et se trouva sur la route, qui s'étendait lointaine aux clartés d'une large lune illuminant la campagne. « Juan ! » cria-t-elle. À cet aspect, un cavalier, un juvénile seigneur, au profil dominateur, au regard tout brûlant de joie, apparut, et sautant de cheval, enveloppa dans son manteau celle qui était enfin venue vers lui. « Oh, Natalia ! » dit-il. La tenant ployée entre ses bras, sur son cheval, ils partirent vite vers le manoir dont les tours là-bas s'accusaient sous les lunaires ombres. Ce furent 6 mois de fêtes d'amour, de voyages charmants à travers l'Italie, à Florence, à Rome, à Venise. Lui, joyeux, elle, souvent pensive, les caresses de son ardent ravisseur bien qu'éperdue et enivrante, n'étant pas celle que l'innocence de son cœur avait espérée. Soudainement, de retour à Cadix par un matin de soleil, sans qu'une parole même l'eût avertie, elle se réveilla seule, sans anneau nuptial, sans même la joie d'un enfant. Son amant, fatigué d'elle, était disparu. Avec un profond soupir, la jeune fille laissa tomber le billet sombre qui lui annonçait la solitude. Elle ne se plaignit pas, résolue à ne pas survivre. En peu d'heures, lorsqu'elle lui répondit au pauvre l'or qui lui restait, au moment même de se délivrer de la vie, une pensée, une candide pensée, l'oppressa. Revoir encore une fois, une seule fois, pour un suprême adieu, la Madone de jadis. Donc, vêtue en pénitente et mendiant un peu de pain sur la route, elle s'achemina vers le monastère, vers la chapelle plutôt, car elle ne pouvait plus rentrer parmi les vierges fidèles. En quelques jours de marche, et comme se fonçait l'éblouissement d'un beau soir d'été tout brillant d'astres, elle arriva tremblante, exténuée, devant le saint portail. Elle se souvenait qu'à cette heure-là, ses anciennes compagnes étaient retirées en oraison dans leurs cellules et que, sous les hauts piliers, l'église devait être aussi déserte que le soir de l'enlèvement. Elle poussa donc la porte et regarda. Personne. Là-bas seulement, sous la lampe toujours claire, la Madone. Elle entra, puis à deux genoux, avança sur les dalles blanches vers sa céleste amie, et inclinée entre des sanglots, elle balbutia, parvenue au pied de celle qui pardonne. « Oh, madame, je suis indigne de clémence. Je ne savais pas, alors que la tentatrice voix me suppliait, je ne savais pas. Quel abandon, quel opprobre, hélas, réserve l'amour mortel. Oh, honte, dont je vais mourir, banni de tout asile chez les miens, ici surtout. Laquelle de vos filles, ô mère, ne m'accueillerait d'un signe d'effroi, montrant le dehors cette chapelle? Oh, j'ai perdu l'espérance en voulant consoler. » Alors, comme les silencieuses larmes de Natalia tombaient sur les pieds de l'élue divine, et que la jeune fille relevait un regard suprême chargé d'adieux vers la Madone, elle tressaillit d'une soudaine extase, car elle vit les yeux sacrés qui la regardaient, et les lèvres de la statue s'entr'ouvrirent, et celle du ciel lui dit doucement: « Ma fille, ne te souviens-tu pas? Tu m'as confié ton voile et la clé de ta cellule avant de nous quitter. Je t'ai donc remplacé ici, accomplissant sous ce voile toutes les tâches de tes vœux. Nulle d'entre tes compagnes ne s'est aperçue de ton absence. Reprends donc ce que tu m'as confié. Rentre dans ta cellule. » Et ne t'en va plus !